AMC, M comme Maïtena.
La sécheresse en France, 61 départements sont désormais concernés par des arrêtés de catastrophe naturelle à cause de cette sécheresse.
Eleanor a surpris par sa puissance et par son intensité du jamais vu depuis Xynthia.
En quelques heures seulement, jusqu'à 200 mm d'eau s'abattent sur le département, l'équivalent de 2 mois de pluie.
Il y a une étude de la Fédération française de l'assurance qui estime que par rapport aux 20 dernières années, les 20 prochaines années vont coûter 2 fois plus cher en remboursement, lié aux catastrophes naturelles et aux phénomènes extrêmes.
Maïtena Birabin.
Bonjour Emma Aziza, merci d'être là.
Bonjour Maïtena.
Soyez la bienvenue, vous êtes hydrologue, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste de la gestion des risques d'inondation. On va essayer de s'intéresser à la manière dont on va pouvoir s'adapter avec vous. En tout cas, il y a un constat d'ores et déjà, depuis 2014 je crois, les sécheresses s'accentuent chaque année et cette année encore, on va battre un record.
C'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, si on se remémore un petit peu l'historique, au mois de décembre 2017, on était encore en plein état de sécheresse et on a basculé directement dans une actualité d'inondation sur le bassin de la Seine. Donc finalement, d'un extrême à l'autre.
C'est de l'un ou l'autre.
Ce qui sera notre quotidien dans les années à venir.
Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour Maïtena.
Merci d'être là. Vous êtes climatologue, évidemment, membre du groupe d'experts intergouvernemental, sur l'évolution du climat, le fameux GIEC. À la question quand est-ce que ça commence ? La réponse est...
Donc quand est-ce que ça commence ? Bien, on a déjà... Justement, le réchauffement climatique est perceptible. On a,
ça a déjà commencé.
Ce rapport du GIEC est sorti il y a une quinzaine de jours.
Oui.
Un des premiers constats, c'est que quand on parle aux gens dans la rue maintenant, disons les choses changent.
Oui.
Eh bien, les gens ont vraiment cette idée que le climat se modifie. Et même Donald Trump a admis que les choses... Enfin, le climat bougeait. Alors, il ne l'attribue pas aux activités humaines, loin de là. Il pense aussi que ça pourra revenir à d'autres.
Oui.
Mais bon, le constat est là, oui. Donc, c'est dès maintenant...
C'est commencé.
Les problèmes qu'Emma a évoqués, aussi bien de sécheresse que d'inondation, sont évidemment le lot déjà de 2018. C'était déjà des problèmes en 2016 en région parisienne. Et voilà, et même en début de, disons, mai-juin dernier, plutôt avec beaucoup de pluie. Donc,
oui. Alors, dans le rapport du GIEC, on parle des conséquences donc de ce réchauffement climatique, les vagues de chaleur, l'extinction des espèces, la déstabilisation des calottes polaires, la montée des océans sur le long terme. On va voir tout ce qui va se passer tout au long de ces 45 minutes ensemble, tout ce qui nous attend à très court terme, et puis peut-être les choses sur lesquelles on peut agir ou en tout cas s'adapter. Juste un petit mot, Jean Jouzel, sur la COP21, c'était 2015. Le but, c'était de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. On oublie ça, c'est terminé ?
Bien, disons que dès en 2015, effectivement, l'objectif était clairement défini et j'y adhère pleinement. L'idée,
oui,
c'est que si on réussissait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, eh bien, on pourrait s'y adapter pour, au moins pour l'essentiel, je dirais. C'est ça l'idée qui est derrière ce choix, qui est un choix politique auquel j'adhère. Le problème, c'est qu'à Paris, eh bien, on avait demandé aux pays de faire part de leurs engagements par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que ce que les pays mettent sur la table corresponde exactement à l'objectif. Et c'est là où nous en sommes. C'est inscrit dans l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'on a, disons, les engagements nous permettent de faire un tiers du chemin vers 2 degrés et nous le verrons malheureusement un cinquième du chemin vers 1,5 degré.
Ouais. Et nous faisons chemin ou pas? Les Français.
On a un peu de mal. Parce que oui, 2017, disons, il faudrait que les émissions diminuent très rapidement en France. On a affiché dans les textes, c'est parfait en France également. C'est neutralité carbone à horizon 2050.
Ouais.
Mais dans la réalité, les émissions ont augmenté entre 2017 et 2016. Et ce n'est pas bon signe, effectivement, pour les engagements de notre pays.
Alors, est-ce que vous deux, je dois vous dire que je suis toujours troublée quand, peinée, et c'est le mot juste, quand on traite de ce sujet, parce que vous vous battez depuis longtemps, on entend depuis longtemps parler du GIEC, on vous entend depuis longtemps nous alerter. Alors bon, là, oui, ça y est, on le voit, on a eu un été hyper chaud. Oui, soit c'est la sécheresse totale, soit il tombe des trombes d'eau en 30 minutes, 3 mois de flotte. Enfin, je veux dire, ok. Et là, tout d'un coup, on se dit, ah, mais attends, qu'est-ce qu'il disait, le monsieur du GIEC? Qu'est-ce qu'elle disait, la dame? C'est horrible. Enfin, je vous admire d'avoir le sourire.
Je ne vais pas trop prendre la parole, mais... Il se fait quand même que quand on regarde, disons, ce que disait notre communauté scientifique il y a 30 ans, il y a 20 ans, eh bien, on est sur ces trajectoires.
Ouais.
C'est-à-dire un climat qui se réchauffe en moyenne, à peu près entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie. On est vraiment sur ces trajectoires et puis sur lequel se superpose une intensification des événements extrêmes. C'est vraiment ce qu'on vit.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux ce que cette communauté dit pour 2050 et au-delà.
Oui, oui. Et ce qui est annoncé, Emma Aziza, nous permet de rêver d'un avenir radieux.
Ce qui est très intéressant dans cette prise de conscience, conscience, c'est que peut-être jusque-là, la population française, alors je vais pas faire de généralité bien sûr, mais avait une sensibilité très variable
oui.
Du fait que les visions qu'ils avaient du changement climatique étaient loin de leur espace de vie.
Absolument.
Je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait ces inondations dans l'Aude, pourtant on en a eu des épisodes méditerranéens colossaux, mais là, effectivement, ça a croisé à plus de 25 degrés pendant presque 98 jours de suite sur Paris, c'est absolument invraisemblable. Et là, on commence à comprendre qu'effectivement, on est dans quelque chose qui n'est plus cohérent regard de notre quotidien habituel.
Mais on continue de dire l'épisode Cévenol, par exemple, donc un épisode qu'on a déjà connu.
Parce qu'effectivement, on dit épisode Cévenol parce que d'habitude, ça se produit justement par cette confrontation des masses d'air sur les Cévennes. Maintenant, on parle aussi surtout d'épisodes méditerranéens.
Ouais.
Et puis, sans doute que ces épisodes vont aussi évoluer, plus rentrer dans les terres. D'ailleurs, il y a plusieurs scénarios qui prévoient ce type d'événement vraiment dans la France métropolitaine. Donc, on sera amené de toutes les façons à avoir effectivement ces précipitations diluviennes
ouais.
De plus en plus intenses, de plus en plus dévastatrices, j'ai envie de dire. Et c'est là où peut-être on doit repenser aussi notre manière d'envisager ce qu'est le risque, où se situe le risque. Quand on parle de risque inondation en France, on pense toujours finalement à sa rivière. On va regarder la rivière principale, majeure.
Bien sûr.
Et puis, le lit mineur, le lit majeur, et puis la zone inondable. Et puis là, on se rend compte, notamment quand on regarde l'Aude, mais pas que finalement, quand on regarde tous ces événements qui se sont produits, que c'est un territoire qui va réagir à des précipitations colossales.
Bien au-delà des zones inondables connues.
C'est ça, on compare ça à plusieurs oui. Piscines olympiques. Si vous voulez, effectivement, quand on regarde ce qui tombe, on comprend que c'est ces eaux qui vont commencer à réagir sur un territoire en dévastant tout sur leur passage, que c'est un petit cours d'eau à sec la majeure partie de l'année,
oui.
Qui va monter à 5 mètres de hauteur, c'est là qu'on va avoir les victimes,
oui.
C'est là où on s'y attend pas, parce que si on regarde la scène, dans le lit majeur, j'ai envie de dire, effectivement, on regarde pas le loin, c'est ce qui s'est passé par exemple en 2016.
Le loin qui est un affluent.
Alors que là, je pense qu'il faut avoir vraiment cette approche globale
oui,
et se dire, finalement, on est sur un territoire oui. Et on est de toutes les façons vulnérables, mmh. Et donc il va falloir maintenant penser à s'adapter.
Donc la première des choses, effectivement, pour nous adapter, c'est de considérer autrement notre géographie et nos lieux d'habitation.
Oui.
Arrêter de penser que ceux qui auront les pieds dans l'eau sont ceux qui vivent communément. On dit on a toujours construit en zone inondable. Bon, donc voilà, vous êtes inondés, vous étiez en zone inondable.
Oui.
Non, ceux qui sont y compris en zone pas du tout inondable auront les pieds dans l'eau. Donc ça, il faut commencer à le réaliser et peut-être alors quoi, construire ce pilotis.
Non, alors je suis pas sûre que ce soit vraiment une solution. Effectivement, il y a différentes solutions d'adaptation. Ça peut être une solution dans certaines zones déterminées. Ouais. Maintenant, quand on regarde certains bassins, je pense au bassin de la Loire, par exemple,
ouais.
On a 200 000 maisons qui sont situées dans la zone d'une crue majeure de la Loire, comme on l'a vécu au 19e siècle. Qu'est-ce qu'on fait de ces 200 000 maisons ? À un moment donné, on peut pas délocaliser tout, on peut pas tout détruire. Sur le plan financier, c'est pas imaginable. Par
ouais.
Contre, on peut adapter.
Ouais.
Il y a trois solutions d'adaptation. La première, c'est effectivement de partir du principe qu'on peut avoir 50, 60 cm d'eau chez soi. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans les grandes crues de la Seine en 2016. En
oui.
Juin 2016, on a tous été surpris parce que c'est pas une période d'occurrence habituelle, si vous voulez. Ou bien ce qui s'est passé au mois de janvier l'année dernière, pareil sur la Seine, où là, on aurait pu protéger ces maisons où on a eu 30, 40, 50 cm d'eau avec des vitesses qui étaient quand même modérées. Il suffisait de mettre des solutions structurelles
oui,
pour protéger la maison
donc.
Qui existent déjà.
D'accord.
Et si on les avait mises en place, on aurait eu des dégâts beaucoup moins élevés.
Ouais, ouais.
Deuxième niveau, c'est quand l'humain est concerné. Si on dépasse un niveau, par exemple, d'1,80 m, de 2 m de hauteur, là, il faut construire des niveaux refuges parce
oui.
Qu'on sait que si ça se passe et que la personne souhaite quand même habituer dans la maison, il faut au moins protéger l'humain. Et puis le troisième niveau, c'est quand on peut plus rien faire. Bah là, effectivement, faut délocaliser parce que, à un moment donné, comment peut-on vivre dans un lieu si on met sa vie en danger?
Jean Jouzel, le GIEC pense aussi aux solutions, travaille aussi sur les solutions.
Oui, puisque, disons, le GIEC, c'est à la fois, disons, l'analyse des causes du réchauffement climatique,
ouais.
De ses conséquences, mais aussi de l'adaptation. Il y a, disons, il y a trois rapports du GIEC et le second rapport du GIEC fait une large part à l'adaptation.
On est fait pour nous adapter. De toute façon, on a déjà dû s'adapter par le passé.
Bien sûr. Et pour ce qui concerne les événements extrêmes, c'est de toute façon, je veux dire, en dehors du réchauffement climatique, il faut bien avoir disons, en tête qu'il y a eu toujours des inondations, des cyclones, des sécheresses, des vagues de chaleur. La question que se pose le climatologue, que nous nous posons et nous apportons une réponse malheureusement qui n'est pas trop optimiste, c'est que ces événements extrêmes vont s'intensifier dans un contexte de réchauffement climatique. Mais, disons, le travail d'Emma devrait être fait aussi. Même s'il n'y avait pas réchauffement climatique, parce qu'il faut absolument que disons les populations qui quand même eh bien augmentent, il y a de plus en plus de monde sur donc prennent conscience de ces risques. Simplement le problème eh bien c'est que le réchauffement climatique accentue nettement ces risques. On peut pas être porteur j'aimerais être porteur de bonnes nouvelles, mais ce n'est vraiment pas le cas pour ce qui concerne. Et donc il faut effectivement beaucoup de un véritable regard et je sais c'est ce que Emma fait disons avec tous ses collègues, c'est un regard sur les territoires au point de vue très local. D'adaptation, c'est justement quelque chose d'extrêmement local.
Alors, on aura déjà compris que la première des choses qu'il faut que nous changions, c'est notre regard. Il y a certainement des habitudes qu'il va falloir qu'on prenne par ailleurs. Il y a des choses contre lesquelles on ne pourra pas se prémunir, ni alléger. Il vaut mieux la sécheresse ou des pluies torrentielles? Face à quoi on est plus à même de réagir? Ça vous fait marrer?
Alors,
moi, j'essaie de choisir
entre les deux.
Oui, il y a les deux. C'est pour ça que je me dis qu'est-ce qu'il vaut mieux?
Dans les deux cas, on a une atteinte psychologique au niveau des territoires qui est terrible. On a des gens qui ont tout investi dans leur maison. D'un côté, dans les cas de sécheresse, qui sont totalement fissurés, où il va y avoir des dégâts majeurs avec la remobilisation des sols. Et puis de l'autre côté, où tout est dévasté. Et alors le pire, c'est que ce sont des eaux boueuses qui rentrent à l'intérieur de chez soi. Donc on a un effet, si vous voulez, de traumatisme qui est colossal. Parce que non seulement on perd tous ses biens, mais sur le plan émotionnel, c'est terrible. C'est les eaux du dehors sale qui rentre chez soi. Et là, l'atteinte, elle dure longtemps, elle dure des années. Moi, je vois sur les territoires, les gens, à peine ils évoquent l'événement, ils ont encore les larmes aux yeux. Et pourtant, parfois, ce sont des gros baraqués, des mers,
très costauds. C'est la puissance de la nature, on s'en rend compte.
Et à un moment donné, quand on perd tout, on peut se remettre en question sur notre fragilité.
On va continuer, évidemment, de discuter avec vous. Merci, Eric, d'attendre au 32-16. On va se retrouver dans un instant. Vous pourrez nous faire part de votre commentaire. Emma Aziza et Jean Jouzel sont là pour nous répondre et nous renseigner sur notre adaptation face au changement climatique. Vous écoutez RMC, il est 14h14.
RMC, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena.
Une sécheresse exceptionnelle. Le mois de septembre a été l'un des trois plus secs jamais enregistrés. Dans certaines régions, il est tombé 97% de pluie de moins que la normale.
Dans Seine-et-Marne, l'eau est montée à plus d'un mètre. Même les pompiers se sont trouvés pris au piège de cette montée des eaux et des torrents de boue qui se sont déversés au milieu de la commune.
On sait que le dérèglement climatique est déjà en cours. Par contre, il n'est pas trop tard pour éviter le pire.
C'est pas une fatalité, le dérèglement climatique. C'est un choix politique. Donc, soit on choisit d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre, de changer de modèle de développement, soit on va subir des catastrophes et personne ne sera épargné.
Maïtena Birabin.
Et nous parlons donc de ce changement climatique et de notre adaptation ou pas à ces phénomènes. Nous sommes avec ceux qui font et qui pensent demain les solutions et évidemment le constat. Emma Aziza, vous êtes hydrologue et vous êtes spécialiste de la gestion des risques d'inondation. Jean Jouzel, le fameux Jean Jouzel du GIEC bien entendu, qui nous parle depuis si longtemps de ce réchauffement climatique que nous n'avons pas su pour l'heure empêcher tout simplement. Alors je dis pour l'heure, c'est fini, ça a commencé. Donc maintenant on peut s'adapter, on peut réduire, on peut faire avec, ou pas, parfois. On parlait de ces épisodes qu'on a pu déjà constater, soit d'immenses sécheresses, mais très très fortes, très violentes, avec des murs de maisons qui se fissurent, avec du fourrage pour les animaux qui n'est plus là, avec du métier du bâtiment qui ne peuvent plus travailler, parce que le béton ne prend pas à certaines températures, on ne peut évidemment pas monter sur des toits à des températures extrêmes, ou alors des pluies diluviennes, comme on l'a pu le voir avec le fameux épisode Cévenol, donc qui arrive peut-être plus fréquemment ou de manière beaucoup plus violente ou à des moments où il ne devrait pas surgir ces phénomènes. Donc ça, c'est ce qui nous arrive, c'est le premier état des lieux. Eric nous a rejoint au 32-16. Merci Eric d'avoir attendu. Vous avez une idée de ce que l'on peut faire? Vous êtes dans les Landes, vous êtes mon copain des Landes.
C'est ça.
Salut Eric, bienvenue. Est-ce que vous le constatez, vous, le changement climatique dans les Landes?
Ah mais on le constate tous. C'est à tous les niveaux. Et il suffit simplement de regarder l'évolution des saisons. Le problème, c'est que à l'échelle d'une vie humaine, c'est relativement modeste. Et que on a tendance à oublier assez vite.
Mais ça s'est passablement accéléré, on va dire cet été par exemple.
c'est toujours pareil, tout dépend du point de référence qu'on prend. On a eu des étés qui ont été beaucoup plus chauds que celui-là. Par contre, celui-là a été particulièrement sec.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes un des départements en restriction d'eau, Eric? Il y a 59 départements qui sont en restriction d'eau aujourd'hui.
Pas à ma connaissance.
Non, pas les Landes.
On doit pas en être très loin. Moi, le problème que je vois, c'est qu'on est arrivé à un stade où il faut préserver pas uniquement l'espèce humaine, mais l'intégralité de la biosphère à laquelle on s'adosse.
Ouais.
Et c'est bien gentil de parler d'adaptabilité de l'espèce humaine. Encore faut-il qu'elle ait le temps.
Ouais. C'est-à-dire
si on continue sur les modèles économiques qui sont les nôtres, et ben on n'y arrivera pas.
Alors Jean, est-ce qu'il a raison, Eric? Est-ce que c'est l'économie qu'il faut d'abord modifier, donc décarboner?
Oui, allez, je vais faire un peu de publicité. C'est vrai que je me suis beaucoup impliqué avec Pierre Laroutourou sur l'idée d'un pacte finance-climat européen. C'est-à-dire l'idée, en gros, le constat, il vient de la Cour européenne des comptes. Si on veut effectivement faire cette transition vers une société bas carbone, et en gros, si on voulait limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait diviser nos émissions par deux entre 2020 et 2030, arriver à neutralité carbone en 2050. On voit bien ça au niveau mondial. Eh bien, effectivement, ce sont de gros investissements. Et donc, il faut effectivement investir dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans l'adaptation.
Mais Jean, je vous ai pardon. Attendez, juste une seconde, Eric, parce que j'aimerais que c'est tellement important là. Comment peut-on faire pour que entre 2020 et 2030, on est divisé par deux? Ça veut dire quoi? On arrête tous de prendre l'avion, on arrête tous de rouler en voiture.
Oui,
qu'est-ce qu'on fait?
La question est posée. C'est pas simple du tout, et c'est peut-être. C'est un des problèmes du réchauffement climatique, on s'y prend un peu trop tard. C'est-à-dire que le discours des climatologues, moi je travaille dans ce domaine depuis 50 ans, effectivement, j'ai commencé ma thèse en 1968, en octobre 68. Donc, c'est vrai que...
J'avais un an.
Non, mais c'est la difficulté de la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, disons, quand les choses sont là, quand les conséquences sont tangibles, perceptibles et réellement là, eh bien il est un peu trop tard, parce qu'il il aurait fallu. Mais il est toujours temps de faire le maximum, et... La seule façon, techniquement, ça reste possible de changer, et votre, disons Eric a raison, c'est vraiment changer de mode de développement. Oui. Il faut aussi de la sobriété, et il faut quand même, aller dans son sens, que les règles de l'Organisation mondiale de commerce, qui sont l'épine dorsale du capitalisme actuel, ne sont pas du tout adaptés à la lutte contre le réchauffement climatique.
Le capitalisme, c'est le meilleur ami du changement climatique, Jean Jouzel?
Non, c'est pas. Disons, en tout cas, les règles d'OMC, qui sont des règles d'échange maximum, maximiser les échanges au niveau planétaire, ne sont pas compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique, qui, au contraire, demande vraiment ou demanderait une relocalisation des activités. C'est ça que je veux dire. Et donc, en fait, il faudrait que, disons, l'OMC prenne en compte les externalités, ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire, disons, donner un prix au CO2 pour tenir compte du coût de l'environnement, un principe pollueur-payeur. Ça pourrait peut-être mieux fonctionner, mais on est loin de ça.
Mais vous savez bien, Jean Jouzel, Eric, Emma, que si on va sur Internet, en 3 minutes, je vous trouve un billet tour du monde pour 350 euros.
Non, mais c'est ça le problème. Alors on va pas faire... Bon, le low cost, c'est clair que c'est pour moi un non-sens, en tout cas vu du point de vue des climatologues. Non seulement il n'y a pas de taxe sur
le carbone,
sur le fuel ou sur le kérosène dans ce cas-là, excusez-moi, mais aussi, disons, si une compagnie low cost souhaite atterrir à Limoges ou dans une autre ville de province, ils font payer pour, au contraire. Donc c'est-à-dire c'est le contribuable qui paye pour le low cost de ceux qui voyagent. Et effectivement, quand on regarde au niveau mondial actuellement, ce qu'on appelle les soutes, c'est-à-dire transport aérien maritime, c'est de l'ordre de entre 3 et 4%, mais le tourisme lui-même dans son ensemble, c'est 8%, et c'est un des postes des émissions énorme, de gaz à effet de serre mondial, et ça croît de façon très importante.
Eric, vous êtes prêt à faire quoi, vous? Parce que vous êtes dans les Landes, vous avez besoin de votre voiture, hein?
Ah ben, moi j'ai besoin de ma voiture, ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai une image à te soumettre, Maïtena.
Oui.
Aujourd'hui, on produit pour consommer, et c'est ce qui nous met dedans. Imagine un crayon à papier, il faut plein de gens différents pour faire un crayon à papier, quelqu'un qui va extraire du minerai pour qu'ensuite un autre vienne le frapper, construise une scie qui va servir à couper l'arbre pour faire le crayon. Sauf que personne se pose la question de savoir ce qu'on va pouvoir écrire avec ce crayon et comment on va pouvoir le partager avec les autres. Jusqu'à maintenant, on est dans une phase de fabrication de crayons. Il serait temps qu'on commence à écrire et qu'on échange.
Qu'on réfléchisse. Alors, c'est très intéressant, ça, Emma Aziza, la conception des choses. C'est encore une fois changer notre point de vue avant de faire.
Je pense qu'effectivement, il va falloir totalement revoir et adapter nos comportements. Ça, c'est nécessaire, mettre de la conscience dans ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait quelque chose.
Ouais.
Mais ce que je ressens, c'est que vous avez une partie de population qui ont déjà compris ça, qui sont déjà dans le fait d'admettre
c'est générationnel.
La situation. Pas que, finalement, aujourd'hui, quand on regarde nos jeunes, ben, ils sont toute la journée sur YouTube, ils ont d'autres moyens de communication que nous. Il va peut-être falloir aussi cibler autrement ces jeunes-là. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux vitesses. Il y a ceux qui disent, de toutes les façons, on est foutus. Donc, baissons les bras, on va tous y passer. Et c'est fini. Et du coup, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a beaucoup de fatalisme, à la fois de culpabilité, mais j'ai envie de dire même surtout de frustration.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens sentent qu'ils peuvent rien faire. Donc, et je pense surtout qu'on les accompagne pas. Parce que moi, j'interroge des gens au quotidien et ils ont conscience de ce qui se passe. Tout le monde m'en parle. Ah bon, vous êtes hydrologue, donc vous travaillez sur ce sujet.
Ouais.
Donc, ça amène toujours des tonnes de questions. Mais les gens ne savent pas comment se comporter. Ils savent pas comment adapter leur comportement.
Mais qu'est-ce qui manque? Une grande campagne publique
il faut les accompagner. Il faut vraiment porter ça.
Ouais.
Porter ça dans toutes les écoles, dans tous les programmes pédagogiques scolaires.
Vous avez
scolaires,
tout à fait raison, Emma. C'est la première fois que je vous reçois pour parler des solutions. C'est la première fois.
Et ça, on peut le faire, on sait le faire.
Donc
et
ça, c'est une décision politique.
Donc ça, c'est une décision qui doit venir effectivement d'en haut et une décision ensuite qui viendra d'en bas à partir du moment où les gens comprendront. Donc les gens, il faut déjà leur dire, toi, à ton échelle, tu peux déjà faire ça dans ton quotidien.
Alors,
tu peux manger de cette manière, tu peux consommer de cette manière, tu peux vivre de cette manière. Parce que sinon, si on leur explique pas, on peut pas généraliser finalement une population en disant, les gens n'ont rien compris, ils sont complètement à côté. Non, il y a de tout comme type de personnes et comme type de perception. Et donc, il faut s'adapter à ces différentes populations.
Alors, vous allez nous expliquer dans un instant si vous avez rencontré les ministres qui pourraient répercuter toute cette pédagogie, toutes ces explications, toutes ces informations qui nous permettraient d'aborder le changement climatique autrement qu'en étant de pauvres victimes effarées et en étant acteurs de notre vie. Merci Eric d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant avec Emma Aziza et Jean Jouzel. À tout de suite sur RMC.
RMC, M comme Maïtena. RMC jusqu'à 16h, M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Ça ne vous aura pas échappé, le réchauffement climatique a d'ores et déjà commencé. Nous essayons de comprendre si nous sommes, nous, les humains, mais aussi les animaux qui nous entourent, capables de nous adapter et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour survivre à ces tempêtes, à ces sécheresses, à ces pluies diluviennes, mais aussi à certainement beaucoup d'autres choses. Certains réacteurs nucléaires sont arrêtés en période d'immenses températures parce que, évidemment, les cœurs des réacteurs sont rafraîchis par de l'eau qui est tiède. Mmh. Donc, on ne peut plus rafraîchir. Donc, on arrête les réacteurs. Donc, il y a moins d'électricité. La SNCF est obligée de ralentir ses trains puisque les rails se dilatent sous l'effet de la chaleur. Les huîtres ne se développent plus parce qu'il y a trop de plancton dans l'eau et que donc, elles n'arrivent plus à arriver à maturité. Le raisin, lui, alors il est à profusion, mais il côtoie sur les étals les prunes, les pêches, les nectarines, au mois d'octobre ou au mois de novembre, enfin ça y est, enfin, les cèpes sont devenus introuvables, ça c'est juste un scandale, c'est absolument impossible, je ne peux pas m'y résoudre, c'est un enfer. Donc nous discutons de ce que nous allons pouvoir faire avec Emma Aziza qui est hydrologue et avec Jean Jouzel, membre du GIEC bien entendu. Vous nous disiez Emma Aziza qu'il y a des tas de choses à faire, déjà changer notre regard, ensuite changer notre regard sur notre géographie, sur notre économie, sur nos actions, mais qu'il y a un manque effarant d'informations et que nous sommes tous là à subir ce réchauffement climatique au lieu d'être acteurs. Mais si nous ne sommes pas acteurs, c'est parce que nous n'avons pas les explications et les choses à faire, le mode d'emploi. Jean Jouzel, vous étiez avec François de Rugy il y a un instant.
Effectivement, je sors d'une
le ministre de l'Environnement
avec François de Rugy et justement, ces aspects dont nous discutons aujourd'hui, de sensibilisation et d'éducation, ont été aussi évoqués. Alors, je vais parler de deux initiatives dans lesquelles je suis assez impliqué. Donc, je pense que l'éducation, c'est extrêmement important et se monte au niveau français un office pour l'éducation du climat avec Pierre Léna au niveau de l'Académie des sciences. Je suis impliqué. C'est une initiative très importante tournée justement vers les écoles. C'est plutôt au niveau international. Donc, je pense vraiment qu'il faut agir au niveau des écoles, des jeunes, je le fais moi-même.
Les écoles, beaucoup... c'est-à-dire le primaire, le collège,
oui,
le lycée,
tous les trois niveaux.
Mmh.
Même l'université par moment,
oui.
Au contraire de... Enfin, bon, disons qu'il y a, il y a une méconnaissance de ces aspects aussi bien à l'université, mm-hmm. peut-être encore plus dans les grandes écoles françaises.
Ce seraient des actions qui prendraient place quand? Parce que là, 2020, on est dans le mur, donc il y a un petit peu
donc là,
le feu quand même.
C'est l'idée de cet office, c'est avant tout de, disons, d'enseigner au corps enseignant à tous ces niveaux la façon dont on peut aborder le problème. C'est vraiment d'aider le corps enseignant, c'est pas le remplacer,
à diffuser l'information.
Ah, et la deuxième initiative qui est celle de sensibilisation, eh bien aujourd'hui le train du climat, qui est donc je suis président de l'association du train du climat, est à Biarritz. Donc le train du climat, c'est cette idée justement d'aller porter les solutions, alors bien sûr les causes, les conséquences du réchauffement climatique, mais c'est avant tout les solutions dans les territoires. Et le train du climat vient de faire 6 villes là en Nouvelle-Aquitaine, Angoulême, Poitiers, voilà, et puis là Biarritz, et ça se terminera par Agen, après Bordeaux.
Vous êtes en train de nous dire que
c'est très important, et j'y attache moi-même de l'importance à la sensibilisation. Et je voudrais simplement citer, pour, mais je pense qu'Emma connaît bien sûr, il y a eu une très belle initiative de mon collègue Hervé Le Treut, justement sur l'adaptation en Nouvelle-Aquitaine, un très beau rapport, un effort au niveau des territoires, un projet qui s'appelle Acclimatera, qui va justement dans ce sens de sensibiliser à la fois à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à la nécessaire, indispensable adaptation.
Alors, Joseph nous envoie un message que je vous livre avec plaisir. Bonjour Maïtena, j'en ai marre qu'on me culpabilise parce que je reste 10 secondes de plus sous la douche, ou parce qu'on laisse allumer une lumière quelques minutes de trop, ou parce que j'utilise ma voiture et j'en passe. La NASA vient de déverser 1 million de litres d'eau, les usines diverses, c'est sur un pas de tir d'une fusée, les usines diverses et variées polluent, les agriculteurs avec leurs pesticides, au lieu de ça, s'ils labouraient leur champ, l'eau pénétrerait celle-ci, etc. etc. Et on le sait, Joseph a 3000% raison.
Mais complètement, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des solutions qui viennent du haut et des solutions qui viennent du bas. Mais les solutions qui viennent du bas ne suffisent pas. Moi, je suis pas pour le fait de culpabiliser les gens parce qu'effectivement, ils vont utiliser un peu plus d'eau que d'habitude, alors qu'à côté, vous allez avoir d'autres fonctions économiques comme l'agriculture qui intensivement utilise de l'eau de manière bien plus, dans des proportions qui n'ont absolument rien à voir.
On va préciser pour ceux qui sauraient pas, parce que vous savez bien entendu, Emma, mais, et reprenez-moi si c'est faux, mais quand on met de l'engrais ou des pesticides sur une terre, on la sèche, la terre a beaucoup de mal à être imprégné par l'eau, alors que si on ne met rien, l'eau pénètre et donc ça va beaucoup mieux sans utiliser.
Effectivement, il y a un vrai problème sur la biodiversité locale dans les sols. Il y a un problème dans les ravinements, un problème d'accélération du ruissellement qui va accélérer le risque d'inondation. Vous avez un problème sur effectivement tous ces pesticides derrière qui vont nous atteindre de toutes les façons directement sur notre santé. Et c'est très difficile de faire prendre conscience de tout ça. Et je pense que les solutions, de toutes les façons, elles doivent être aux deux échelles. Mais le premier niveau, effectivement, doit être gouvernemental, c'est nécessaire. J'ai envie de dire que si on met en place une solution de prévention, la première question qu'il faut se poser, c'est contre quoi je veux me prémunir? Contre quelle menace? Nous, par exemple, dans le domaine du risque inondation, on va se dire, est-ce que je veux protéger les tissus économiques, l'habitat, l'agriculture, du risque de remontée de nappe, du risque de submersion marine, comme on l'a vu avec Zintia, du risque de ruissellement? Eh ben, à chaque fois, on va avoir des solutions différentes. Donc, la première chose, c'est de se dire, contre quelle menace je veux me protéger? Si c'est plusieurs, ce sera différents types de solutions. Et en fonction de ce qu'on veut protéger, c'est pas du tout la même démarche, parce que si on s'intéresse par exemple à une entreprise qui risque d'être inondée, on va chercher à comprendre son cœur névralgique d'activité, ce qui ferait qu'elle mettrait la clé sous la porte si elle est inondée. On va essayer de se poser la question de sa vulnérabilité et son interdépendance au réseau, parce qu'effectivement s'il y a plus d'électricité ou plus d'internet, eh ben derrière il y a plus d'activité. Et donc tout ça, en fait, c'est pour ça qu'il faut des réponses sur mesure. Elles sont de très grande ampleur, mais elles sont là. C'est quand même très positif. Donc,
je pense qu'il
faut aussi redonner une vision au territoire des gens pour leur redonner envie de pouvoir y contribuer. C'est important.
Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer et qui se tournent déjà vers ça. Benoît, par exemple, est au 32-16 avec nous. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez pour nous parler justement de cette fameuse agroécologie. Racontez-nous.
Ben, justement, donc moi, je suis agriculteur un petit peu jeune. J'ai 31 ans.
Ouais.
Et du coup, j'ai pratiqué toujours l'agriculture comme on nous a enseigné avec le travail du sol.
Ouais.
Et puis, voyant que ça commence à devenir compliqué, avec les histoires de pollution, les produits phyto, j'ai commencé à chercher un autre modèle qui correspond un petit peu à mes besoins et à mes attentes, c'est l'agroécologie.
En fait, c'est le modèle de votre grand-père, l'agroécologie, Benoît, si je ne me trompe pas.
On pourrait voir ça, mais pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Parce qu'à l'époque, depuis des années, on travaille nos terres.
Ouais.
Et le fait de travailler le sol libère du carbone.
Oui.
Sachant que les plantes le stockent dans le sol.
Ouais.
En fait, c'est tout l'inverse. Il faudrait vraiment mettre des couverts permanents, limiter le ruissellement.
Ouais.
Avec ces systèmes-là, ça ferait des pièges en nitrate, ça éviterait les pollutions des ruisseaux et tout ça. Et tout ce que je viens d'entendre, justement, avec un témoignage que vous avez lu, comme quoi les agriculteurs qui polluent et tout ça, mais c'est pas de continuer à labourer que ça va résoudre le problème, au contraire, c'est pour ça qui fait l'infiltration de l'eau.
Hein?
C'est des plantes qui tiennent le sol, qui créent des galeries avec la biodiversité.
Et Benoît, il faut arrêter de
culpabiliser les agriculteurs.
Non, bien sûr, mais vous-même vous dites j'ai changé ma manière de faire par ailleurs. Mais Benoît, c'est tout à fait, c'est presque désespérant de vous entendre. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous êtes en train de nous dire que les choses se font de manière saine, propre, correcte pour tout.
Je vais le faire, parce qu'en fait, c'est un modèle, ça fait un an que je suis en train d'essayer d'y travailler pour le mettre en place chez moi sans trop de casse, parce que le temps que le sol se remette à vivre, il va y avoir une petite transition où je vais peut-être perdre un peu d'argent aussi, sachant que le contexte est très difficile.
Et donc, l'État pourrait essayer d'aider, ça pourrait donner des... Alors, je sais bien qu'on est dans un État qui ne regorge pas de ressources, mais enfin, il y a des ressources pour le patrimoine. S'il y avait des ressources, Jean Jouzel, pour les paysans, pour les aider à aller vers une transition qui soit bio, ça serait bienvenu.
Dans le cas dont on discute ici, une des possibilités serait effectivement que, disons, les agriculteurs soient récompensés pour leur capacité de piégeage de carbone dans le sol, parce que c'est indispensable. Quand on regarde un climat à 1,5 degré, même à 2 degrés, eh bien il faut absolument, on parle d'émissions négatives, être capable de reprendre du CO2, du carbone. Donc effectivement, l'agriculture en fait un rôle extrêmement important et positif à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. Ils sont aussi souvent aux premières loges, je dirais, des conséquences, mais il y a vraiment aussi beaucoup d'opportunités. Et donc oui, je suis moi-même issu d'une famille d'agriculteurs, donc je suis très proche de...
Et vous allez voir le ministre de l'Agriculture, parce que vous, il faut que vous voyez François de Rugy, c'est fait, mais il faut que vous voyez Jean-Michel Blanquer, il faut que vous voyez le ministre de l'Agriculture, il faut que vous voyez un certain nombre de ministres, Jean Jouzel.
Effectivement, mais si on parle de ministre de l'Agriculture, ce projet 4 pour 1000, disons, stockage du carbone dans les sols, avait été fortement... porté, j'en avais discuté à l'époque avec Stéphane Le Foll. Ce fait que je n'ai pas rediscuté avec les derniers ministres de l'Agriculture, mais disons, il y avait quand même cette initiative, je dirais, qui est absolument positive. C'est difficile à mettre en œuvre, mais pour rebondir sur l'intervention de, je crois, Benoît, eh bien c'est ce qu'il faut faire.
Ouais.
Et donc il a tout à fait raison. Et vu du point de vue d'un climatologue, c'est extrêmement positif.
Merci beaucoup, Benoît. Félicitations, donc, parce que soyons un peu positifs. Il y a effectivement des solutions. Vous en êtes une.
Je peux me permettre un dernier mot.
Allez-y.
C'est au sujet, bon, je sais que je vais faire réagir beaucoup de personnes sur le glyphosate, par exemple. C'est un produit pour l'agriculture, l'agroécologie et l'agriculture de conservation des sols qui permet la suppression du travail du sol, mais qui est très utile pour pouvoir, à un moment donné, plantes à des très faibles doses. Il y a des gens qui expliquent très bien sur YouTube ce qu'ils font.
Oui.
Avec un litre de glyphosate, ils arrivent à stocker l'émission de plus de 20 voitures.
On va demander à Jean Jouzel si vous confirmez ça, le glyphosate, c'est une bonne solution.
Non.
Je pensais pas poser cette question-là.
Je n'ai pas les chiffres qu'à Benoît. Ce que je sais, c'est que à des conférences récentes, c'était effectivement dans le Perche, à Rémalard exactement, un jeune agriculteur m'a dit « Moi, je veux faire de l'agroécologie, mais je peux pas me passer le glyphosate sur le sol. » Donc, effectivement, je suis bien conscient de ce problème. Et je crois que vous avez raison. La seule façon, c'est d'utiliser le minimum de glyphosate. Mais je n'ai pas les chiffres en tête. Vous allez mieux que moi. Mais je suis très... je connais ce problème, cette difficulté. On ne peut pas faire, du sans-labour, sans s'occuper de la surface également. Donc ça, peut-être Emma a des commentaires là-dessus.
Emma, très vite pour conclure.
Ça me donne le sentiment, finalement, il va falloir dépasser les clivages, il va falloir dépasser toutes ces croyances limitantes qu'on ne peut rien faire, parce qu'on peut encore faire des choses. Ça doit venir de l'échelle, j'ai envie de dire, gouvernementale, ça c'est certain, parce qu'on peut très très vite, si on prend les bonnes décisions, aller très très vite pour au moins essayer de limiter.
Vous discutez
aujourd'hui
avec quelqu'un, vous, au sein du gouvernement, vous les voyez
encore,
ou pas?
Pas encore.
Vous n'avez vu aucun ministre? Personne ne vous a reçu?
Pas encore.
Vous avez demandé à l'être?
Non plus.
Vous aimeriez l'être?
J'agis sur le terrain tous les jours et je pense que c'est ce qui est essentiel.
Ouais.
J'essaye de faire passer des messages quand je le peux.
La politique, c'est aussi au gouvernement.
Effectivement, mais c'est quelque chose d'assez complexes qui parfois sont...
Mais ça, on l'aura compris, je crois, aujourd'hui.
La politique. Mais je pense que c'est par là qu'on trouvera les solutions aussi.
Il y a aussi un plan d'adaptation.
Pour conclure, Jean-José.
Un plan d'adaptation sur le réchauffement climatique, le plan d'adaptation sur le changement climatique qui va être annoncé, je pense, à la fin de l'année. Et donc, je pense qu'Emma s'y intéressera certainement, parce que c'est bien ça. Il y a quand même un plan.
Nous signalons donc à Matignon et aux autres ministères que nous avons le numéro de téléphone d'Emma Aziza à votre disposition. Vous avez visiblement déjà celui de Jean Jouzel. Merci beaucoup à vous d'être venu pour nous faire comprendre ce sujet si compliqué, si universel et d'une telle qualité. C'était vraiment extrêmement agréable de vous recevoir. Merci Emma, merci Jean.
Merci
à très bientôt sur RMC.
Merci.